Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Les Slovaques restent stupéfaits après le meurtre fin février du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée Martina Kusrinova. Les manifestations se poursuivent pour demander des comptes aux dirigeants politiques, même après la démission du chef du gouvernement Robert Fico. Quant aux journalistes slovaques, ils sont traumatisés par la perte de leurs collègues. Mais plus solidaires qu'avant, certains d'entre eux se montrent déterminés à poursuivre ce travail d'investigation et ils dénoncent la corruption dans le pays. Reportage à Bratislava, Alexis Rosenzweig.
Première manifestation du mois d'avril sur la place du soulèvement national à Bratislava et ils sont encore des milliers à réclamer justice pour Jan Kuciak et sa fiancée. Des confrères sont présents dans la foule, dont certains travaillaient avec lui pour le site Actuality. Le rédacteur en chef, Peter Brady, a eu du mal à exprimer le choc ressenti quand il a appris que le jeune couple avait été tué par balle.
Quand j'ai appris la nouvelle, je suis resté pétrifié, assis à ma table. Je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé tous mes collègues pour les prévenir. J'ai eu peur pour eux et j'ai toujours peur pour eux depuis, tous les jours.
L'acteur Milan Kniazko a été par le passé ministre de la Culture. Il a également dirigé une des télévisions privées du pays.
Il y a beaucoup de journalistes qui sont tués dans les pays où il y a des guerres, etc., à l'aide d'être exécuté finalement, à la maison, et d'une façon aussi cruelle, ça appartient aux mafias. Voilà. Donc il faut se rendre compte que tout le monde est choqué, même en Europe, je crois que ce n'est pas quotidien, c'est peut-être possible, je ne sais pas, en Corée du Nord ou en Russie peut-être. Enfin, il faut être choqué, il faut faire quelque chose.
Après ce double homicide, le Premier ministre Robert Fico a démissionné et s'est fait remplacer par un de ses proches. Ses sorties virulentes contre les journalistes lui ont été beaucoup reprochées. Robert Fico en avait notamment traité certains de sales prostituées anti-slovaques. L'organisation Reporters sans frontières lui a demandé de formuler des excuses par la voix de son secrétaire général Christophe Deloire, venu à Bratislava début mars. Peine perdue. Celui qui reste l'homme fort de Slovaquie a préféré s'aligner sur les thèses conspirationnistes chères à son voisin hongrois Viktor Orban en se posant en victime d'un complot fomenté entre autres par le milliardaire George Soros. Sur la télévision publique RTVS, plusieurs journalistes conservent le badge All for Jan, tous pour Jan, épinglé au revers de la veste. Ce badge, les membres de la rédaction ont pourtant reçu comme consigne de ne plus le porter à l'antenne. Certains journalistes ont refusé, se heurtant de front à leur direction, une direction très politisée aujourd'hui. Pour la journaliste de la radio-télévision publique Beata Papuchekova, plusieurs décisions prises récemment en haut lieu ont signalé un changement inquiétant dans la ligne éditoriale des chaînes publiques.
Il y a une émission qui a cessé d'exister, les reporters, c'était des reporters d'investigation. On a supprimé donc cette émission, que moi d'ailleurs j'ai beaucoup appréciée. Et ces journalistes ont été remplacés.
Au sein du média privé qui employait Jan Kuciak, plusieurs journalistes sont venus de l'étranger pour apporter leur soutien, notamment d'Allemagne, de Suisse ou encore de Pologne. S'il a du mal à parler de conséquences positives à un crime abject, le rédacteur en chef Peter Brady estime en tout cas que le choc a provoqué un changement dans la profession.
Il y a une nouvelle solidarité. Tous les journalistes d'investigation slovaques des différentes rédactions collaborent et échangent leurs informations. Nous ne sommes plus des concurrents sur certaines affaires. Nous avons réalisé que c'est plus prudent et préférable aussi pour avoir de meilleurs résultats. Si nous restons chacun de notre côté, nous sommes vulnérables et nous devons défendre notre profession. Même s'ils peuvent essayer, ils ne pourront pas tous nous tuer.
Les collègues prennent donc le relais du travail d'investigation de Jan Kuciak sur les liens entre mafia italienne, fraude aux subventions européennes et corruption au plus haut niveau de l'État, tandis que l'enquête de police se poursuit pour retrouver les responsables de sa mort, sans résultat pour l'instant.
Il s'appelle Tony Iwobi et c'est le premier sénateur noir tout juste élu en Italie. Sauf que son parti, eh bien, c'est la Ligue du Nord de Matteo Salvini, ouvertement anti-immigration. Et pourtant, le Nigérian justifie ce choix logique, dit-il, lui qui est arrivé en Italie en 1976 et s'est engagé depuis 25 ans aux côtés du parti xénophobe. Cécile Debarge.
C'est une poignée de main surprenante. Sur une photo prise en pleine campagne électorale, on voit à gauche l'Italien d'origine nigériane Tony Iwobi et à droite Matteo Salvini, leader de la Ligue du Nord, un parti qui défend une ligne anti-immigration, qui arbore un t-shirt blanc sur lequel il est écrit « Stop à l'invasion ». Tony Iwobi ne voit là rien d'étonnant. Ses mots durs contre les immigrés, il les assume parfaitement, puisqu'il est responsable des questions d'immigration au sein du parti où il milite depuis 25 ans. Et de préciser aussitôt, nous ne sommes pas contre les personnes, mais contre les personnes en situation irrégulière. Un message qu'il martèle sur un t-shirt qu'il a porté pendant la campagne, pas raciste, mais réaliste. À 62 ans, cet ingénieur de formation dirige son entreprise d'informatique dans la région de Bergame, où il vit et s'est installé après son arrivée en Italie pour étudier à l'université de Pérouse en 1976. À l'origine, c'est le projet de fédéralisme fiscal de la Ligue du Nord qui le séduit et guide sa carrière politique entamée dès 1993 comme conseiller municipal de la petite ville de Spirano. À ses côtés, au Sénat, le vice-président de la Chambre haute, Roberto Calderoli, qui avait défrayé la chronique en 2013 en comparant l'ancienne ministre de l'intégration, Cécile Kyenge, à un orang-outan.
Avec ses 12 millions d'habitants et même plus, Moscou est un véritable monstre urbain. La capitale russe produit 20% des ordures ménagères du pays. La gestion de ces déchets est un énorme problème puisqu'en Russie, la pratique du recyclage est très peu développée. La plus grande ville d'Europe déverse tout dans sa région, ce qui suscite désormais la révolte des villes alentours. Les habitants se plaignent notamment des nuisances provoquées par des décharges saturées. C'est le cas à Volokolamsk, situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de Moscou. Une cinquantaine d'enfants a même été hospitalisés le mois dernier, victimes d'émissions de gaz toxiques. Un collectif s'est formé pour obtenir la fermeture de la déchetterie. Étienne Bouche.
Pourquoi devons-nous supporter les ordures des autres? Pourquoi personne ne nous a demandé si nous étions d'accord pour accueillir les ordures de Moscou?
Sur la place de l'administration de Volokolamsk, plusieurs milliers d'habitants sont venus demander des comptes. La décharge voisine leur rend la vie impossible. Elle émet des gaz toxiques qui répandent une forte odeur dans toute la ville. Le mouvement de protestation n'est pas nouveau, mais il a pris une ampleur inédite lorsqu'une cinquantaine d'enfants d'une même école ont été hospitalisés le mois dernier. Dimitri est père de 3 enfants.
Aujourd'hui, c'est impossible de rester à la maison. La nuit, on ne peut pas respirer. On habite au 3e étage, mais qu'il y ait du vent ou pas, ça pue. On étouffe, les enfants ne peuvent pas dormir, ils ont la nausée.
Les manifestants disent tous ressentir les mêmes symptômes. Problèmes respiratoires, maux de tête, vomissements. Ils réclament la fermeture de la décharge, la démission du gouverneur de la région et la mise en place d'un régime d'exception. Il y a quelques années encore, la décharge n'accueillait que les ordures des communes alentours. Mais depuis peu, la quantité d'ordures a explosé. Certaines décharges de la région ont fermé, si bien que les ordures ont été envoyées ici. C'est ce qu'explique Alexandra, qui habite à 3 km de la décharge.
Il y a 20 ans, c'était un endroit très propre ici. Nous avions une parcelle de terrain, on a fait construire une maison. Mais depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est devenu invivable. Aujourd'hui, la moitié des terrains est à vendre, mais le prix s'est effondré à cause de la situation écologique.
À chaque rassemblement, un représentant vient nous assurer qu'une commission va être formée, qu'on va mener une expertise. Ces commissions inutiles payées par nos impôts et corrompues, non merci! Nous exigeons la fermeture de la décharge. Je ne vous entends pas. Qu'est-ce que nous voulons? La fermeture! La fermeture!
Activistes et anonymes se succèdent au micro pour se faire entendre. Jusqu'à présent, les autorités ont fait mine de se saisir du problème, mais s'emploient à minimiser les conséquences sanitaires. Elles assurent que la situation n'est pas dangereuse, ce qui ne les empêche pas de distribuer des masques respiratoires à la population et d'envoyer les enfants faire des cures dans des sanatoriums. Selon Svetlana, qui travaille comme infirmière à l'hôpital de la ville, les autorités imposent l'omerta.
À l'hôpital, personne ne dit rien. À tous les niveaux, les médecins, les infirmières, les femmes de ménage, on leur a tous interdit de dire la vérité. Les gens s'empoisonnent. Moi aussi, j'ai un fils de 38 ans. Tous les jours, il a le nez qui saigne alors que c'est un garçon solide. On nous empoisonne.
Après l'hospitalisation d'une cinquantaine d'enfants, les autorités régionales ont promis la fermeture de la décharge. Un système de dégazage doit théoriquement être installé. L'annonce suscite le plus grand scepticisme auprès d'une population habituée d'être bernée par ses représentants. Nikolaï Dijour est un élu municipal de la ville de Tchekhov, au sud de Moscou. Il est venu soutenir les habitants de Volokolamsk. Selon lui, le responsable de l'incurie n'est autre qu'Andrei Varabiov, le gouverneur de la région de Moscou.
En avril 2013, Varabiov a écrit une lettre au président Poutine au sujet de la fermeture de 39 décharges, avec pour objectif de développer le secteur du recyclage. En 5 ans, pas une seule usine n'a été construite. Ces 5 dernières années ont juste servi à détourner l'argent et se le mettre dans les poches. L'argent n'a pas du tout été investi dans la construction d'usines de recyclage, dans la création d'infrastructures de tri des déchets. On balance tout comme au Moyen-Âge, avec un seau directement sur le sol.
La région de Moscou est confrontée à un sérieux problème écologique. Elle produit 20% des 70 millions de tonnes de déchets annuels en Russie. L'essentiel est généré par la capitale. Près de 90% des ordures terminent à la décharge. La pratique du recyclage est embryonnaire. Plusieurs décharges doivent être fermées dans les années à venir, mais la réponse apportée par l'État est loin de satisfaire les écologistes. L'année dernière, Vladimir Poutine préconisait la construction d'usines incinératrices. Une erreur selon Alexandre Ivanikov, spécialiste de la gestion des ordures chez Greenpeace Russie.
Nous avons encore un nombre limité d'usines incinératrices. Actuellement, il y en a 6. Aujourd'hui, la Russie se trouve à la croisée des chemins, sauf que le choix de l'incinération est une impasse. On prévoit de construire 4 usines dans la région de Moscou, à des endroits où vivent beaucoup de gens. On leur dit que cela ne présente aucun danger. Mais c'est faux. Non seulement ces usines ne résolvent pas les problèmes, mais en plus, elles les aggravent d'un point de vue écologique.
La contestation anti-ordures a gagné plusieurs villes qui n'acceptent plus de jouer les poubelles de la capitale. Une action commune consistant à bloquer l'accès aux décharges de la région est prévue ce samedi, jour de l'anniversaire du gouverneur.
C'est le principal distributeur de journaux en France. Presstalis contrôle 75% du marché des titres de presse, mais l'entreprise est aujourd'hui au bord du gouffre. Elle a certes obtenu en mars dernier une opération de sauvetage à 190 millions d'euros, impliquant de lourds versements des éditeurs de presse et de l'État. Sauf que pour les petits, comme le 1, fondé par Éric Fotorino, c'est trop. Éric Fotorino vient d'ailleurs de réclamer une enquête parlementaire. Une situation en tout cas révélatrice de la profonde crise que traverse la presse écrite en France. Est-ce aussi le cas chez nos grands voisins? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors Daniel, la quasi-faillite de Presstalis préfigure-t-elle celle de la presse écrite française?
Pas encore Catherine, car la situation de Presstalis, société déjà renflouée en 2012, est due également à une gestion aventureuse, à une stratégie hasardeuse de regroupement des dépositaires de presse et à des investissements très malheureux, en particulier dans un coûteux système informatique qui n'a jamais fonctionné. Ces dysfonctionnements à répétition ont accéléré le déclin de la presse écrite, notamment parce que le pourcentage de journaux invendus s'est accru et que le nombre de points de vente de la presse se réduit comme une peau de chagrin. Mais l'effondrement de Presstalis est bien sûr aussi une conséquence du déclin continu de la presse écrite française nationale et en particulier quotidienne.
Et ce déclin est-il inexorable ?
Oui, pratiquement. Il a commencé en France, voici plus d'un demi-siècle, avec la généralisation de la télévision, et il s'est accéléré au début des années 2000 avec l'explosion de l'Internet et des médias sociaux qui ont bouleversé les modes d'accès à l'information et modifié en profondeur les habitudes culturelles. Sans compter de surcroît le développement des radios d'information en continu. Résultat, les gens s'informent de moins en moins en lisant chaque jour leur journal, et les jeunes ne le font pratiquement plus. Si l'on s'en tient aux 6 principaux quotidiens nationaux généralistes, leur diffusion est passée d'une moyenne de 1,6 million par jour en 2000 à environ 1,2 millions actuellement, soit une baisse de 25%.
Est-ce qu'on peut dire, Daniel, que c'est un recul plus marqué que chez nos voisins ?
Dans les grands pays européens, le recul s'est fait sentir beaucoup plus tardivement. En outre, leurs habitudes de lecture sont modifiées par deux phénomènes. D'une part, l'existence d'une presse du dimanche assez variée et puissante, alors qu'en France, le journal du dimanche, le JDD, est en situation de monopole. D'autre part, la présence puissante au Royaume-Uni et en Allemagne d'une presse dite populaire, qui n'a plus son équivalent dans l'Hexagone depuis longtemps. Cette presse populaire, on parle outre-manche de tabloïdes, explique pourquoi la diffusion des journaux nationaux reste bien plus élevée outre-Manche et outre-Rhin, respectivement 6,4 et 3,8 millions par jour, contre moins de 1,3 million en France.
Vous voulez dire que la presse populaire tient le coup ?
Non, elle avait bien résisté jadis à la télévision, mais elle a été totalement percutée par l'internet. Ainsi, la diffusion des tabloïds britanniques, les Daily Mail, Daily Mirror et autres Sun, a baissé de 46% depuis 2000, et celle du journal Bild en Allemagne s'est effondrée de 60%. Quant à la presse suprarégionale de qualité outre-Rhin, sous Deutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine ou Die Welt, il marque depuis 2000 une baisse exactement identique à celle des quotidiens nationaux français, 25%.
Et qu'en est-il dans les pays du Sud ?
L'Italie conserve encore plus de 15 quotidiens nationaux, mais si l'on considère les 10 premiers, le Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, on s'aperçoit que leur diffusion a été carrément divisée par 3 depuis 2000. Enfin, en Espagne, les 5 principaux quotidiens nationaux, El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, ont vu leur diffusion passer de 1,4 million à moins de 500 000, soit une chute de 65%.
Finalement, Daniel, les journaux français connaissent le même déclin qu'ailleurs.
En termes de diffusion et de baisse des ventes, oui, puisque les 4 premiers pays européens par la population connaissent une diffusion désormais équivalente de leur presse nationale de qualité. En revanche, tous les quotidiens nationaux français n'ont pas su aussi bien négocier le virage de l'internet que l'ont fait les grands titres de la presse allemande ou britannique.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
L'actualité en Catalogne, ce n'est pas seulement la question de l'indépendance qui agite l'Espagne et la région depuis des mois maintenant, ou encore l'exil du leader catalan Carles Puigdemont. Un autre sujet suscite la polémique, c'est la décision de la maire Ada Colau d'effacer toute trace du passé esclavagiste de Catalogne. Au XIXe siècle, de nombreux industriels ont en effet activement participé au commerce d'esclaves, François Musso.
Des noms de rues, de places, de squares, mais aussi des noms d'édifices emblématiques, des statues. Ces noms sont ceux, par exemple, de Vidal Quadras, de Salvador Sama, de Manuel Pastor et de tant d'autres. Ce sont des capitaines d'industrie du XIXe siècle, très riches, salués comme des personnes qui ont fortement contribué au développement économique de la Catalogne. Ils ont tous un point commun, ce sont des esclavagistes. Ils organisaient des voyages d'esclaves de l'Afrique vers Cuba, alors colonie espagnole. Ces hommes ont profité à l'époque de la fin progressive de l'esclavagisme aux États-Unis et en Angleterre pour faire de l'argent, beaucoup d'argent. Un passé honteux a tranché la maire Ada Colau, proche du parti Podemos. Elle a décidé d'effacer ses traces, peu à peu, de supprimer ses noms de rues et de places, pour les remplacer par, je cite, « des noms dignes ». Déjà, tout près du port de Barcelone, la statue d'Antonio López a été décellée. Antonio López était le marquis de Comillas, sans conteste un marchand d'esclaves qui s'était considérablement enrichi. Avec d'autres, tels Josep Vidal Ribas ou Goiti Solo, des banquiers, il faisait partie de l'élite sociale et économique. Jusqu'ici, ces réalités, confirmées par de nombreux historiens, étaient un tabou. Ce n'est plus le cas. Pour autant, l'initiative municipale se heurte à de nombreuses résistances, notamment parmi des associations patronales, politiques et aussi culturelles. Cela s'explique par une vérité que beaucoup voudraient occulter. Une grande partie de la prospérité actuelle de la ville s'est construite sur le commerce d'esclaves au XIXe siècle.
À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Pour continuer à nous suivre, retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur notre page Facebook.